dans Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7. L'Ecclésiaste au chapitre 7, frères et sœurs, mes bien-aimés, nous allons lire les versets 13 à 20 à la gloire de notre Dieu. L'Ecclésiaste chapitre 7, versets 13 à 20. Nous allons lire ces versets-là inclusivement du verset 13 au verset 20. Après quoi je prêcherai l'évangile, frères et sœurs. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès, et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Dès le Seigneur, dans son amour parfait et incommensurable, bénir et sanctifier, frères et sœurs, la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus parfaite édification commune de nos âmes. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, cette thématique développée à l'Église depuis le mois de janvier 2021 se poursuit. Elle se lit ainsi pour ceux qui se connectent avec nous pour la toute première fois. Dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Avant que deux serviteurs de Dieu aient pu me succéder dans la prédication les deux dimanches écoulés, disons trois hommes de Dieu, le frère Serge, le pasteur Evans, je crois aussi notre bien-aimé frère Saint-Paul. J'ai prêché sur ce passage que nous venons de lire, à savoir l'Ecclésiaste chapitre 7 et les versets 13 à 20. J'ai pu particulièrement entretenir l'Église sur les versets 13 et 14. C'est la raison pour laquelle je reviens à charge pour la suite du passage et attirer votre attention sur l'enseignement que contient la suite du passage, particulièrement les versets 15 à 18, à la gloire de notre Dieu. Comme j'ai l'habitude de le faire dans le cadre de la prédication d'une série, j'aimerais rapidement vous rappeler de quoi est-ce que j'ai parlé, ne serait-ce que pour vous remettre en contexte pour la suite de la prédication de la suite du passage. Lorsque j'ai prêché la toute dernière fois sur ce passage, j'ai attiré votre attention sur le verset 13 en tout premier lieu, où le Qohélète, le prédicateur, l'orateur, le sage, l'Ecclésiaste donc, nous dit « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé ?» J'ai eu à vous expliquer de quoi Ecclésiaste parlait quand il dit « Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé ?» Je crois vous avoir dit que l'Ecclésiaste fait référence à la condition humaine sous le soleil. C'est de cela qu'il parle quand il dit « Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé. » Je vous ai dit que l'Ecclésiaste, en disant cela, attribue la condition humaine sous le soleil à Dieu. Mais je vous avais expliqué que, en disant cela, l'Ecclésiaste faisait référence à la chute de l'homme en Éden, chute qui a été suivie légitimement, saintement, judicieusement, par eh bien, le châtiment de Dieu sur l'homme incrédule, sur l'homme rebelle, frères et sœurs, mes bien-aimés. Dieu a manifesté sa sainte justice, eh bien, lorsque l'homme s'est égaré de la voix de Dieu, lorsque l'homme, plutôt que d'écouter la voix de Dieu, a écouté la voix du diable en Éden, c'est depuis ce temps-là que toute cette description que l'Ecclésiaste nous donne, eh bien, dans son livre, a commencé à exister. À la création de Dieu, il n'était pas prévu que ces choses-là existent, que toutes ces impondérables, toute cette vanité, il n'était pas question qu'il y avait, eh bien, toute cette situation difficile, ces épreuves, ces obstacles et l'écrasement du temps, le temps qui nous écrase. Et à l'origine, le Dieu dans le plan qu'il parfait qu'il a, eh bien, ces choses n'étaient pas prévues. L'homme a pris sa voix et Dieu a sévi contre la voix de l'homme. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que l'Ecclésiaste appelle qui peut redresser ce que Dieu a courbé, frères et sœurs, mes bien-aimés. La réalité des problèmes ou des difficultés de la vie, comme je vous l'avais dit, c'est quelque chose que vous et moi, nous souhaitons tous pouvoir changer, mais que nous ne pouvons pas changer parce que, comme le prédicateur le souligne parfaitement bien, personne ne peut redresser ce que Dieu a courbé. Je vous avais dit que vous et moi, nous luttons dans cette vie de vanité, frères et sœurs. Nous luttons sous le soleil avec des limitations physiques de notre corps physique. Nous souffrons, frères et sœurs, entre autres, de la rupture de relations. Vous et moi, sous le soleil, dans la condition misérable de l'homme de vanité sous le soleil, nous avons tous ou presque quelque chose que nous aimerions avoir, mais que nous n'avons pas, ou que nous avons quelque chose que nous avons, mais que nous n'aimerions pas avoir. Nous voudrions tous voir quelque chose que nous ne voyons pas, ou nous voudrions tous ne pas voir quelque chose que nous voyons, frères et sœurs, dans ce monde où tout est courbé, frères et sœurs, mes bien-aimés, dans ce monde de vanité. L'Ecclésiaste nous dit, mais c'est la réalité. C'est ça qui est ça. Dieu peut toujours prendre soin de nous, frères et sœurs. Comme je vous l'avais dit quand je prêchais sur ce passage, Dieu peut toujours nous faire grâce, à vous et à moi, comme le peuple de l'Alliance. Dieu peut toujours commander à ses bénédictions de pleuvoir sur nous, sur nos maisons, sur notre église, sur nos familles, sur notre santé, Mais en même temps, frères et sœurs, à la lumière de ce passage, eh bien, l'Ecclésiaste nous dit que nous ne pouvons rien changer à la condition humaine sous le soleil. En d'autres termes, frères et sœurs, tant et aussi longtemps que Dieu n'aura pas levé la malédiction qui sanctionne le mal, l'homme ne pourra pas être soustrait à la condition misérable qui est la sienne sous le soleil. En d'autres termes, frères et sœurs, mes bien-aimés, il subsistera toujours des pandémies et des maladies contre lesquelles la médecine sera impuissante. Il subsistera toujours des ennuis de vieillesse auxquels nous serons toujours impuissants, vous et moi. Il subsistera toujours des rêves qui nous demanderont de trimer avant de pouvoir les réaliser et d'autres qui ne seront même pas réalisés, frères et sœurs. La vie sous le soleil, la vie où tout est courbé, est ainsi faite, nous dit l'orateur ou bien le sage Salomon, frères et sœurs. Sachant cela, comme je vous l'avais dit, il nous appartient à vous et à moi, en tant qu'enfants de Dieu, d'assumer en Christ la vie sous le soleil, telle qu'elle se présente avec ses joies et ses peines. Il nous appartient en tant qu'enfants de Dieu d'assumer la vie sous le soleil, la vie où tout est courbé avec ses jours de bonheur et ses inéluctables jours de malheur, afin d'en tirer le meilleur parti possible dans la grâce et dans la crainte de Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est du moins ce que nous dit le prédicateur au verset 14. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que je me rappelle bien avoir couvert les versets 13 et 14, l'enseignement des versets 13 et 14. Et l'Ecclésiaste nous dit, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Je vais prêcher sur la suite du passage. Mais laissez-moi vous dire avant, en disant cela, ce qu'il dit au verset 14, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis, l'Ecclésiaste place chaque jour, chaque circonstance, chaque événement et chaque situation de la vie sous, tenez bien, sous la souveraineté exclusive de notre Dieu, frères et sœurs. Chaque jour de l'existence, chaque situation de la vie, chaque instant, chaque circonstance est placé sous la souveraineté de Dieu. Certains jours sont pleins de prospérité et de bonheur. Ces jours-là sont calmes, comme je l'avais dit. Il n'y a aucune tempête en ces jours. Le soleil brille, les oiseaux chantent et tout va pour le meilleur, pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a de la nourriture sur la table, il y a de l'argent en banque, il y a la communion dans la famille et dans l'église. Les fidèles sont gentils, les pasteurs sont gentils, des âmes sont sauvées, les enfants sont gentils. Le monde autour de nous est gentil. Je vous avais dit aussi que chaque jour comme ça, c'est un cadeau de Dieu dont nous devons profiter dans la joie et la reconnaissance. C'est en ce sens qu'Ecclésiaste nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Autrement dit, frères et sœurs, chaque beau jour, chaque bon repas, chaque santé financière, chaque guérison, chaque délivrance, chaque victoire, chaque conversation significative, chaque expérience agréable, chaque succès est une raison pour le peuple de Dieu de rendre gloire et des actions de grâce à Dieu. Au jour du bonheur, sois heureux. À l'inverse, frères et sœurs, d'autres jours sont remplis d'adversité. D'autres jours sont remplis d'amertume, d'autres jours sont remplis d'épreuves, de frustration, de malheur, d'obstacles, de contrariété, plutôt que de prospérité ou de bonheur. Dans ces jours-là, le soleil ne brille pas, il fait sombre, les oiseaux ne chantent pas et rien ne semble aller autour de nous. Il y a peut-être dans ces jours, comme je l'avais dit, de la nourriture sur la table, mais il n'y a pas de joie, ni de santé, ni de disposition de cœur pour pouvoir la manger, ou alors il n'y a pas d'argent en banque. Le travail, quand il y en a un, quand ce n'est pas le chômage qui sévit, qui s'abat. Le travail existe, mais il est une corvée. Les vacances sont ennuyeuses, les enfants sont difficiles, l'entourage ne nous comprend pas, nos proches ne sont pas gentils avec nous, l'adversaire nous attaque de plein fouet dans tous les recoins de nos vies, matin, midi et soir. Vous sentez que vous n'avez pas un seul ami dans le monde. Tout ce que vous faites semble tourner contre vous. Le prédicateur, le sage Ecclésiaste nous dit que ce jour aussi, ou ces jours aussi, ce sont des jours qui viennent au sens où je l'avais expliqué avant, de la main de Dieu. Un jour qui est sous son contrôle souverain comme le jour de bonheur. Dans ces jours difficiles, frères et sœurs, le prédicateur nous appelle à la sagesse. Il nous appelle à une sage considération des voies de Dieu quand il dit « Au jour du malheur, réfléchis ». Quand le malheur et l'adversité se présentent, frères et sœurs, c'est l'occasion pour le peuple de Dieu de réfléchir à la condition humaine et aux causes qui rendent la vie parfois si difficile, si misérable sous le soleil, frères et sœurs. C'est l'occasion de réfléchir et de prendre conscience des limites humaines et de se rappeler qu'au-dessus de l'homme, il y a un Dieu souverain et maître de l'existence. Lorsque l'adversité vient, réfléchissez. Considérez que c'est aussi un jour que le Seigneur a fait et demandons-lui de nous faire la grâce de vivre chaque journée d'adversité, chaque année d'adversité, chaque mois d'adversité, chaque semaine d'adversité, chaque moment de la journée d'adversité, frères et sœurs, dans la confiance et l'espérance en Dieu. Je vous avais dit que Job a bien compris cela quand au plus fort du jour de l'adversité, de sa semaine, de son année, de son mois d'adversité, de sa saison d'adversité, il eut à dire à sa femme, si nous recevons le bien de la main de Dieu, nous devons consentir à recevoir le mal. Et la parole de Dieu d'ajouter en tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Job 2, verset 10. La leçon est claire, telle que je vous l'avais dit quand je prêchais sur ce passage. La leçon est claire pour nous, frères et sœurs, à savoir qu'au jour du malheur, nous devons demander à Dieu de nous faire la grâce, de réfléchir et de reconnaître que les bons et les mauvais jours viennent de la main de Dieu, au sens où Dieu permet les mauvais jours également, afin de ne pas céder à la panique, et surtout de faire preuve de prudence, de ne pas faire ou de ne pas dire des choses dans lesquelles Dieu ne prend point plaisir, frères et sœurs, mes bien-aimés. Aujourd'hui, votre serviteur, dans le Seigneur et par sa grâce, va vous entretenir de la suite du passage. Où est-ce que l'Ecclésiaste nous dit au verset 14, à partir de où est-ce que Dieu, l'Ecclésiaste nous dit au verset 14, Dieu a fait l'un comme l'autre, c'est-à-dire le jour du bonheur et le jour du malheur, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Autrement dit, frères et sœurs, l'avenir ne nous appartient pas à vous et à moi. Et par le fait même, frères et sœurs, nous ignorons ce que l'avenir nous réserve. Il est impossible à l'homme de connaître et de prédire ce qui se passera dans les prochains jours, dans les prochaines années, dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures, dans les prochains mois, frères et sœurs. Nous n'avons, vous et moi, aucun moyen de savoir si les prochains jours nous apporteront une plus grande joie. Nous pouvons l'espérer, certes, dans le Seigneur et par sa grâce. Nous ne pouvons pas savoir si l'avenir va nous apporter une plus grande prospérité ou un plus grand bonheur. Nous pouvons certes l'espérer par la foi et dans la foi, mais par nous-mêmes, par notre connaissance humaine, nous ne pouvons pas le savoir. Et non plus l'oratoire, chers amis visiteurs, chers amis internautes, peuple du Seigneur, nous n'avons aucun moyen de savoir par nous-mêmes en tant qu'êtres humains si les prochains jours nous apporteront plus d'adversité ou plus d'épreuves. Nous ne pouvons pas le savoir. Nous sommes ce que nous sommes. Ça fait partie de notre nature. Nous sommes des hommes, frères et sœurs. Ce que nous savons cependant, c'est que l'Ecclésiaste nous dit que cette ignorance que l'homme a de l'avenir est le but poursuivi par Dieu quand il fait alterner des jours de bonheur et de malheur sous le soleil. Dieu fait toutes choses pour un but, frères et sœurs, mais bien-aimés, nous dit la parole de Dieu. En d'autres termes, si dans la vie Dieu fait alterner le bonheur et le malheur, c'est pour montrer aux hommes leurs limites, pour que les hommes apprennent à craindre Dieu et à le respecter. Dieu veut que les hommes comprennent qu'ils ne sont pas maîtres de l'existence. Dieu veut que les hommes comprennent qu'ils ne sont pas maîtres de leur existence telle qu'ils se targuent à le dire, à le proclamer. Dieu veut que l'homme apprenne à reconnaître qu'ils ne sont pas maîtres de la vie. Par là, Dieu enseigne l'humilité à l'homme qui a tendance à être orgueilleux à l'égard de Dieu, frères et sœurs. Pour y parvenir, Dieu fait alterner bonheur et malheur dans la vie sous le soleil. Si Dieu a tordu toutes choses sous le soleil, s'il fait le jour du bonheur comme celui du malheur, au sens où je l'avais expliqué la semaine passée, c'est pour mettre un frein à la volonté de puissance de l'homme qui a tendance à se prendre pour Dieu en méprisant Dieu, le Créateur, le véritable, le Saint, le Sauveur, le Juste, frères et sœurs. En un mot, si Dieu fait alterner le jour de malheur au jour du bonheur, c'est pour apprendre à l'homme qu'il dépend de Dieu pour sa vie et que l'homme n'est pas maître de ses capacités ni de ses moyens, frères et sœurs, mais bien-aimés. Pour nous qui sommes chrétiens, cette ignorance que nous expérimentons face à l'avenir ne doit pas nous inquiéter ni nous décourager, frères et sœurs. Au contraire, cette ignorance ne doit pas nous faire désespérer. Cette ignorance de l'avenir, frères et sœurs, devrait nous apprendre et nous motiver à laisser notre avenir, l'avenir de nos proches, l'avenir de nos familles, l'avenir de notre profession, de notre carrière, l'avenir de notre église, l'avenir de notre vie spirituelle, l'avenir de notre vie ministérielle entre les mains toutes puissantes de notre Dieu, frères et sœurs. Cette ignorance que nous avons quant à l'avenir doit nous apprendre à nous soumettre humblement, frères et sœurs, dans la fidélité, dans l'intégrité, dans l'obéissance à la volonté juste, bonne et souveraine de notre Dieu, frères et sœurs. Elle ne doit pas nous inquiéter. Nous devons toujours demander à Dieu, vous et moi, de nous faire la grâce, de nous rappeler cette vérité afin de confier tous les aspects de nos vies aux soins tendres et affectueux de notre Dieu souverain qui nous aime, frères et sœurs, et qui fait toutes choses belles en son temps, telles que nous l'avons enseigné dans les jours passés. Et en faisant cela, peuple du Seigneur, nous serons, par la grâce de Dieu, toujours bien préparés, toujours bien outillés, toujours bien armés, toujours bien équipés, à la fois pour les bons et les mauvais jours, frères et sœurs. Mais bien-aimés, lorsque nous nous soumettons entièrement à Dieu face à notre ignorance de l'avenir, mais bien-aimés, le prédicateur poursuit sa réflexion au verset 15 du passage en disant « J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vie. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. » Non seulement le prédicateur a vu tout ce qu'il nous a déjà décrit sous le soleil, depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 6, et quelque peu dans les versets et précédant le verset 15, le prédicateur nous révèle divers aspects de la vanité, mais il voit encore un autre aspect jusque-là insoupçonné de la vanité, frères et sœurs, à savoir, il y a tel juste qui périt dans sa justice, verset 15, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Souvent, c'est ce que vous et moi, nous voyons aussi, des justes qui meurent précocement, prématurément, et des impies, des méchants, des hommes iniques, des femmes iniques, qui continuent de vivre dans leur méchanceté sans s'inquiéter. Cela nous semble insensé et déroutant. L'Ecclésiaste le trouve aussi. L'Ecclésiaste est du même avis. Dans un monde gouverné par un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu tout-puissant, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu juste, la plupart des gens s'attendent à voir les justes se réjouir pendant longtemps, pendant de longues années de leur prospérité, tandis que les méchants souffrent de l'adversité jusqu'à ce qu'ils soient finalement obligés d'admettre que Dieu est le Créateur et qu'ils le servent. Mais l'Ecclésiaste nous dit que plus souvent qu'autrement, les choses ne se passent pas ainsi sous le soleil. Et ça aussi, ça fait partie de la vanité de la vie sous le soleil. Des victimes innocentes sont abattues dans la fleur de l'âge. Leurs assassins sont parfois arrêtés et condamnés. D'autres fois, particulièrement dans certains pays du globe, les assassins courent dans la nature sans s'inquiéter. Ceux qui font du mal semblent avoir la belle vie, tandis que ceux qui servent Dieu semblent souffrir. Cela n'a pas de sens. Mais hélas, ce paradoxe, nous dit l'Ecclésiaste, fait bien partie de ces choses qui sont redressées, qui sont courbées sous le soleil, frères et sœurs. Ce paradoxe fait partie des choses qui sont courbées dans la vie sous le soleil que nous souhaitons, vous et moi, pouvoir changer, pouvoir redresser sans jamais y arriver. Parce que l'Ecclésiaste nous a déjà dit au verset 13 que personne ne peut redresser ce que Dieu a courbé. Sachant cela, frères et sœurs, mais bien-aimés, le prédicateur nous donne quelques conseils pratiques au verset 16 à 17 pour mieux assumer tous les aspects de la vanité de la vie sous le soleil en général, mais plus particulièrement ce dernier aspect qu'il vient de signaler au verset 15. Il nous donne, si nous ne pouvons pas changer ce que Dieu a courbé, nous pouvons quand même faire quelque chose. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous suggère au verset 16 à 17 en nous disant, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Frères et sœurs, il y a dans la littérature évangélique beaucoup d'interprétations de ces versets dans la, et nous venons de lire, à savoir les versets 16 à 17 de l'Ecclésiaste. Pour des raisons que je n'aurai pas le temps de mentionner ici, l'interprétation, je vous dirais que l'interprétation de Roger Norman Whitbread de l'Université d'Oxford en Angleterre me semble la plus justifiée pour expliquer ces versets. Et donc, c'est son interprétation que je retiens pour la présente exégèse. Selon Whitbread, frères et sœurs, la justice dont il est question ici, c'est la justice propre, la justice religieuse, un peu proche de la justice pharisaïque. Quand l'Ecclésiaste dit « ne sois pas juste à l'excès », il parle de la justice religieuse, de la justice propre, proche de la justice pharisaïque. Cette justice qui consiste à porter l'homme, l'être humain, à se prendre pour juste et à se faire passer pour juste à ses propres yeux, sans tenir compte de la justice divine elle-même, frères et sœurs. Auquel cas, mes bien-aimés, le prédicateur est en train de nous dire « Ne te prends pas pour trop juste et ne te fais pas passer pour trop juste. » Même chose pour la sagesse au verset 17, au verset 16. « Ne te prends pas pour trop sage. Ne te prends pas pour trop sage, frères et sœurs, mes bien-aimés. » Par là, l'Ecclésiaste nous dit que nous ne devons pas penser que nous sommes si justes que nous ne méritons pas de souffrir de la vanité de la vie. Avez-vous déjà entendu des gens qui disent, Dieu m'a fait ça. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Comment ça se fait que je suis un serviteur de Dieu, que Dieu m'a fait ça? Ou d'autres qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas Dieu, des incroyants, qui disent que Dieu est méchant, Dieu n'est pas bon, Dieu n'a pas de pouvoir, Dieu n'a pas de gouvernance. Si Dieu laisse de telles choses arriver, ce sont des gens qui essayent de se prendre pour des plus justes que Dieu lui-même et aussi pour des justes à leurs propres yeux, frères et sœurs. C'est contre cette justice que l'Ecclésiaste nous met en garde quand il dit au verset 16 du passage à l'étude, ne sois pas juste à l'excès, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et l'Ecclésiaste nous dit que nous ne devons pas penser que nous sommes si justes que nous ne méritons pas de souffrir d'adversité, d'épreuves, d'obstacles, de retournements de situation dans la vie, frères et sœurs, ou du moins qu'il est injuste pour quelqu'un comme moi, pour quelqu'un comme vous, eh bien, d'avoir à faire face aux jours de malheur et d'épreuves. Nous ne sommes pas justes. L'Ecclésiaste nous a déjà dit au verset 20, nous l'avons vu. Nous l'avons lu ensemble. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 20 nous dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais, frères et sœurs. La réalité est que quand nous pensons trop à nous-mêmes ou du moins à notre propre justice, la tentation est toujours là pour nous faire dire ou penser que nous ne méritons pas d'être traités comme ça de la part de Dieu. Ainsi, en disant ne sois pas juste à l'excès, le prédicateur nous met en garde de ne pas nous prendre pour trop juste au point de vouloir faire la leçon à notre Dieu en lui disant ah, ce moment difficile ne devrait pas me frapper, ce temps défavorable ne devrait pas frapper mon église, ne devrait pas frapper ma famille, ne devrait pas frapper ma carrière, ne devrait pas je chante dans la chorale, je prêche à l'église, oh, quoi d'autre encore, j'exhorte les gens, je prie nuit et jour. Non, frères et sœurs, si nous disons cela, eh bien, nous disons à notre Dieu qu'il ne sait pas ce qu'il fait, que nous sommes plus justes que lui, que nous comprenons mieux le sens de la justice que lui, que nous comprenons mieux la justice que lui. C'est en ce sens que l'Ecclésiaste sait très bien que dans les moments difficiles, dans les moments d'adversité, ses paroles ont tendance à sortir de la bouche des gens et même de la bouche de certains croyants. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu nous vient nous dire, écoutez bien, vous ne pouvez rien changer à ce qui est courbé dans la vie. Vous ne pouvez rien changer à ce que Dieu a courbé. Tout ce que vous devez faire, eh bien, c'est de vous soumettre à Dieu dans l'intégrité, dans la fidélité, dans l'obéissance et surtout de ne pas dire un homme comme toi, un grand prédicateur comme toi, un grand prédicateur comme moi, un grand serviteur de Dieu comme moi, ça ne doit pas m'arriver. L'Ecclésiaste nous dit, écoutez bien, ne dites pas cela. Ne vous regardez pas comme étant trop juste à tes yeux. Parce que, au demeurant, selon le verset 20, tout est une question de grâce. Dieu fait tout par grâce. Quand nous ne sommes pas frappés par la vanité, par tel ou tel aspect de la vanité de la vie, nous sommes dans la grâce de Dieu. Ce n'est pas notre justice, ce n'est pas notre fidélité, ce n'est pas notre intégrité, parce que, à la lumière du verset 20, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais, frères et sœurs bien-aimés. Autrement dit, si yon moun t'a commencé battre l'estomac pour dire, mon Dieu, j'aime fidèle, j'aime servir, j'aime prier, j'aime enseigner par l'eau, comment ça se fait que m'en bas épreuve? Eh bien, faut le tâcher songer que au moins on fois n'a il t'est péché. Au moins on fois n'a que bon, à cause de ce jour-là, de ce péché-là, Dieu ne lui doit rien, frères et sœurs bien-aimés. La réalité est que quand nous pensons trop à nous-mêmes, frères et sœurs, ou du moins notre propre justice, eh bien la tentation, comme je l'ai dit, est toujours là pour nous faire dire que nous ne méritons pas d'être traités comme ça de la part de Dieu. De même, au verset 17, le prédicateur nous dit, ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. C'est la même chose, vous l'aurez compris sans doute, peuple du Seigneur. Le Cohélète n'est pas en train de nous dire que nous pouvons être méchants en autant que nous ne soyons pas trop méchants, loin de là. Nous pouvons être méchants, mais juste un petit peu. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la pensée de l'Écriture. Ce n'est pas ça la pensée divine ici. Le Cohélète n'est pas en train de nous dire que nous pouvons être méchants en autant que nous ne soyons pas trop méchants. Il ne nous dit pas d'être méchants à condition que ça soit juste un petit peu méchant, loin de là, frères et sœurs. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de niveau raisonnable de méchanceté. Il n'y a pas de niveau acceptable de méchanceté, frères et sœurs. La méchanceté est la méchanceté, un point, c'est tout. Et cela, le roi Salomon le sait particulièrement bien, d'autant qu'il nous dit au verset 7, ne sois pas méchant à l'excès. Et il nous dit, ne sois pas insensé. Et cela, tout court, frères et sœurs. Au contraire, le prédicateur est en train de nous dire qu'il est dangereux de se livrer au mal, tout simplement. Le point de l'Ecclésiaste est qu'il y a un monde de différence entre le fait de pécher accidentellement, frères et sœurs, et le fait de pratiquer, le fait de vivre dans la méchanceté ou dans le péché, frères et sœurs. Voilà ce que l'Ecclésiaste entend quand il nous dit « ne sois pas méchant à l'excès, frères et sœurs ». En conclusion partielle, je vous dirai que le prédicateur nous dit que la propre justice et la méchanceté n'ont pas leur place dans la vie des enfants de Dieu. La propre justice, la justice propre, la justice religieuse, la justice proche de la justice pharisaïque, eh bien, n'ont pas leur, et la méchanceté n'ont pas leur place dans la vie des enfants de Dieu. Quand nous souffrons, ne frappons pas l'estomac, la poitrine pour dire comment ça se fait qu'un homme comme nous, qu'une femme comme nous, qu'une famille pieuse comme nous, qu'une église pieuse comme nous, comment ça se fait que Dieu laisse cette situation nous arriver? Dieu ne nous doit rien. Nous ne sommes pas plus justes que cela, frères et sœurs. Non, l'Ecclésiaste, verset 20, nous le dit clairement, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais, frères et sœurs, mes bien-aimés. Ce sont des choses à bannir, la méchanceté et la propre justice, frères et sœurs, mes bien-aimés. Parce que ces deux erreurs-là, l'Ecclésiaste nous dit qu'elles mènent à la destruction et même à la mort prématurée. Cela dit, pour éviter ces dangers, le prédicateur nous donne un conseil de vivre dans la crainte de Dieu. À chaque fois qu'il nous met en garde contre telle attitude, contre tel état de pensée, il nous donne toujours une solution pour vivre notre vie dans cette atmosphère de vanité, dans ce monde de vanité, dans ce complexe de vanité, frères et sœurs. Au verset 18 à 19, après nous avoir dit de ne pas être trop juste à nos yeux, de ne pas être trop méchant, j'ai expliqué le sens de ces deux affirmations, l'Ecclésiaste nous dit, verset 18 à 19, « Il est bon que tu retiennes ceci et que tu négliges point cela, c'est-à-dire ce qu'il vient de dire et ce qu'il va dire. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Toutes ces choses signifient la propre justice et la méchanceté, d'accord? Et il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Le remède à la propre justice, c'est la crainte de Dieu. Le remède à la méchanceté, c'est la crainte de Dieu. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Cette exhortation de l'auteur, frères et sœurs, comme je l'ai dit, fait référence à ce qu'il vient de donner comme conseil au verset 16 à 17 quand il dit « Celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. » L'Ecclésiaste parle de la destruction et de la mort prématuré, frères et sœurs. Craindre Dieu, c'est quoi? J'en ai déjà parlé dans une de mes prédications passées dans cette série. Craindre Dieu, c'est vénérer Dieu. Craindre Dieu, c'est honorer Dieu. Craindre Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Craindre Dieu, c'est glorifier Dieu, c'est servir Dieu. C'est savoir que Dieu est Dieu. Craindre Dieu, frères et sœurs, c'est savoir que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas plus justes que Dieu. Craindre Dieu, c'est avoir du respect pour la souveraineté de Dieu. C'est avoir du respect pour la puissance de Dieu. C'est avoir du respect pour la sainteté de Dieu. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, frères et sœurs, cela nous aidera à ne pas être aussi justes selon notre justice propre. Nous saurons que Dieu nous voit tel que nous sommes réellement et cela nous apprendra à ne pas prétendre être quelque chose que nous ne sommes pas. C'est ce que la crainte de Dieu nous favorise. C'est ce que la crainte de Dieu nous permet, frères et sœurs, de réussir, mes bien-aimés. La crainte de Dieu nous empêchera également de mener une vie de méchanceté, car lorsque nous comprenons sa sainteté, la dernière chose que vous et moi, nous voudrions faire, frères et sœurs, eh bien, c'est de tomber sous le jugement de Dieu, car le fait que Dieu ait la méchanceté, eh bien, fait en sorte que Dieu pratique la justice divine, sa propre justice contre la méchanceté, frères et sœurs, mes bien-aimés. En conclusion finale, j'aimerais vous dire ceci. Apprenons à louer Dieu dans les jours de bonheur. Apprenons à louer Dieu dans les jours de succès, dans les jours de victoire, dans les jours où on a les mains pleines de bénédictions, dans les jours où nos finances sont en bonne santé, dans les jours où nos prières sont exaucées, où tout ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons. Apprenons à louer Dieu, à lui rendre des actions de grâce en ces jours, à nous réjouir en sa présence. Apprenons à être joyeux, à être content, à jouir du bonheur quand la vie nous sourit. Mais aussi, apprenons à faire confiance à Dieu dans l'adversité. Apprenons à faire confiance à Dieu quand il y a des choses que nous aimerions avoir, que nous n'avons pas. Quand il y a des choses que nous aimerions voir pour notre famille, nos proches, ceux que nous aimons, que nous ne voyons pas encore, qui tardent à se manifester. Quand la vie nous sourit, quand la vie ne nous sourit pas. Apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à vivre dans l'espérance. Apprenons à vivre une vie qui craint Dieu, une vie qui glorifie Dieu. Apprenons à vivre une vie exempte de méchanceté et de justice propre. Apprenons également, frères et sœurs, et surtout, à regarder au-delà de nos difficultés actuelles et à voir l'œuvre merveilleuse de la justice de Dieu en acceptant toutes les choses courbées de la vie jusqu'à ce que Dieu décide lui-même, frères et sœurs, de les redresser comme lui seul peut le faire, frères et sœurs, mes bien-aimés. Souhaitez-vous changer une situation difficile à laquelle vous faites face? Souhaitez-vous changer une situation difficile à laquelle votre proche fait face, votre église fait face, votre carrière fait face, votre santé fait face? Souhaitez-vous changer une maladie en guérison? Souhaitez-vous changer une défaite en victoire? Souhaitez-vous changer une condition quelconque qui ne vous plaît pas dans la vie? Souhaitez-vous repousser les limites de toutes sortes que la vie sous le soleil vous impose? Peut-être que vous avez essayé, mais que vous n'y arrivez pas. Parce que y arriver ne dépend pas de vous. Mais il y a une chose que vous pouvez faire cet après-midi. C'est de faire une confiance absolue à votre Dieu. Confiance absolue. C'est de faire une confiance absolue à votre Dieu pour toutes les choses courbées de la vie. Toutes les choses qui puissent vous arriver, qui sont courbées, qui relèvent de la vanité de la vie sous le soleil. Faites confiance à Dieu pour ces choses. Faites confiance à Dieu pour ces choses qui puissent arriver à vos proches. Mais aussi, et c'est ça aussi la signification de la confiance, mais aussi de vous attendre à ce que Dieu les rende droites pour vous au temps marqué, au temps divin, au temps fixé. Attendre que Dieu les rende droites au temps marqué. Vous savez, Jésus ne nous dit pas autre chose que cela, hein. Jésus est venu pour révéler Dieu dans sa vie. Jésus est venu pour nous montrer Dieu, pour nous montrer comment on est pasteur, comment on est fidèle, comment on sert Dieu, comment on obéit à Dieu, comment on se soumet à Dieu. Mais c'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus a dû affronter la vanité de la vie, Il l'a affronté avec confiance, avec assurance et avec espérance. Vous vous rappelez, vous connaissez très bien l'histoire. Quand Jésus a porté nos transgressions, nos peines, quand il a assumé la colère de Dieu pour nous sur le bois du calvaire infâme à Golgotha, c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a assumé ce qui est courbé dans la vie sous le soleil avec confiance, avec assurance et avec espérance. Il est allé à la croix résolument, sachant pertinemment bien que Dieu est capable de redresser cette vanité avec tout ce qu'elle avait comme contenu. Jésus est allé à la croix. Et c'est parce que Jésus a fait cela, parce qu'il a assumé la vanité de la vie avec confiance, avec espérance, avec assurance en Dieu le Père, que Jésus nous dit, quand vous considérez l'œuvre de Dieu, souvenez-vous de mon amour pour vous à travers la croix de Golgotha courbée, là où je fus crucifié. Souvenez-vous comment j'ai assumé la vanité de la vie à la croix de Golgotha, où mon corps fut percé. Souvenez-vous comment j'ai affronté et assumé la vanité de la vie en toute confiance à l'égard de Dieu le Père, à la croix du calvaire infâme à Golgotha, là où mon sang fut versé, là où l'insulte, la moquerie, le mépris furent mon lot, là où mes larmes furent intarissables, et cela jusqu'à la mort. Jésus nous dit, il nous apprend par cela même comment faire face à la vanité de la vie dans tous ses aspects, frères et sœurs. Jésus nous dit, quand vous considérez l'œuvre de Dieu, quand vous considérez la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la souveraineté de Dieu, vous pouvez faire comme moi, en affrontant la vanité de la vie, ou les vanités de la vie, quand on prend les divers aspects, comme il l'a fait lui-même, comme moi je l'ai fait, quand il a fait, où je me suis chargé de tout ce qui est courbé dans ce monde. Le Christ s'est chargé de tout ce qui est courbé dans ce monde. Toute cette histoire de vanité, Jésus la porte sur son dos. La mort du Fils de Dieu incarne deux choses, à savoir la réalité incontournable de la vanité de la vie sous le soleil. Il faut que ça soit ainsi. Et la victoire du peuple de l'Alliance, de tous ceux qui croient en Jésus, sur cette vanité, jour va, jour vient, frères et sœurs, mes bien-aimés. La victoire de l'Église, la victoire des enfants de Dieu, la victoire des croyants, la victoire du peuple de Dieu, de ce peuple d'adorateurs, est certaine, elle est scellée, frères et sœurs, car le Christ est non seulement mort, mais il est ressuscité 3 jours plus tard. Là où je me fus chargé de tout ce qui est courbé dans ce monde, afin qu'un jour, il n'y ait plus jamais rien de courbé dans ce monde. Le croyez-vous, peuple du Seigneur, chers amis visiteurs, chers amis internautes? Finalement, l'oratoire, Jésus nous dit, en considérant l'œuvre de Dieu, faites confiance à mon Père pour tout redresser en son temps. Et en vérité, en son temps ça, il est capable d'un temps eschatologique au renouvellement de toutes choses, mais il est capable qu'on y ait à tout. Hein? Avez-vous déjà vu des gens malades qui sont guéris? Mais oui, ce n'est pas toujours dans le futur, c'est ultimement dans le futur, c'est plus grandiosement, éternellement dans le futur, mais ça se passe encore aujourd'hui. Dieu a le contrôle de cette vie. La vanité n'a pas le contrôle sur cette vie, pour autant, quoique incontournable. Dieu peut nous combler de grâce. Dieu peut nous combler de bénédiction. Dieu peut nous combler de santé, de guérison. Dieu peut nous combler de succès et de victoire. Dieu peut nous combler de consolation. Dieu peut nous combler de force. Ce n'est pas tout à fait une question de dans l'éternité, bien sûr, dans l'éternité, plus grandiosement, plus éternellement, plus sérieusement, mais ça se passe aujourd'hui quand il plaît à la sagesse de Dieu de le faire. Ainsi, nous avons toutes les raisons du monde de ne pas nous décourager devant la vanité de la vie telle que l'Ecclésiaste l'a définie. Nous n'avons pas à courir, nous n'avons pas à nous cacher, nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous n'avons pas à nous décourager, nous n'avons pas à désespérer, compte tenu de ce tableau décrit par l'Ecclésiaste depuis le chapitre 1er jusqu'à maintenant, loin de là. Au contraire, ce tableau est décrit justement pour nous donner confiance, pour nous donner assurance, pour mousser notre foi, notre espérance en Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. La vanité n'a pas à vous faire peur. Les mauvais temps vont frapper. Les temps d'adversité vont frapper. Mais Dieu sera toujours en contrôle. Ce qu'il vous faut, c'est de ne pas dire, comment ça se fait? Un homme comme moi, une femme comme moi, comment mon Dieu fait permettre qu'on va s'arriver? Non. Tu as péché au moins une fois dans l'année. Alors, tu n'es pas si juste que ça. Ne sois pas trop juste à tes yeux. OK? Au moins, tu as péché une fois dans l'année. Alors, arrêtez-moi ça. Et aussi, de vivre dans la soumission à Dieu, de rejeter toute espèce de méchanceté en termes de pratique de la méchanceté. Il arrivera au moins une fois dans l'année que tu seras méchant. La réalité est celle-ci. Mais tu es capable, par la grâce de Dieu, de ne pas pratiquer la méchanceté, de ne pas vivre dans la méchanceté. Ne sois pas trop méchant, ne sois pas trop juste. Faites confiance à Dieu. C'est la leçon de cet après-midi, c'est l'enseignement de cet après-midi, frères et sœurs. Que le Seigneur nous en fasse sa grâce. Amen.